Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Qui racontera les œuvres puissantes du Seigneur, qui fera entendre toutes ses louanges? Mes très chers frères, les bienfaits que nous tenons de tous les bienfaits que nous tenons de la main de notre Dieu, l'institution du carême est sans doute parmi les plus grands. Nous faisons pénitence et l'Église nous y encourage de chaque jour par les admirables textes des messes de chaque férie de carême. Nous jeûnons et nous savons en même temps que tous nos frères de par le monde font de même. Nous nous humilions sous la main puissante de Dieu et nous savons que c'est aujourd'hui le temps favorable, comme nous le répète constamment la liturgie. De tous les biens que nous tenons de la main de Dieu, il ne faut pas oublier d'y compter le carême, parce que c'est un temps magnifique, c'est un temps merveilleux, où non seulement nous pouvons et nous devons faire pénitence, mais aussi où nous savons que tous les chrétiens du monde entier font la même chose que nous. Et c'est une chose très encourageante, même si l'on est tout seul par la force des choses, que de savoir que tous ses frères se livrent aux mêmes pénitences, aux mêmes mortifications que soi-même. C'est une chose encourageante, plutôt que de se dire, finalement, je suis tout seul, personne, tout le monde mange bien, et moi je suis le seul à faire pénitence. C'est encourageant. Vous voyez, le carême est fait partie des choses que le bon Dieu nous donne pour nous mortifier, bien sûr, mais aussi pour être encouragés. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Nous ne serions pas réellement encouragés si nous n'étions pas incités par l'Église à nous mortifier, de telle sorte que nous ne tombions pas dans la présomption, mais au contraire, que nous puissions développer une humble et très ferme confiance en notre Dieu. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir comment le commencement de la vie chrétienne, que le commencement de la vie chrétienne consiste à se voir et à se confesser tel que Dieu nous voit. Ça, c'est pour le début. Ensuite, nous verrons comment la grâce doit régner en nous et comment nous devons abonder en bonnes œuvres, selon le commandement de l'apôtre. Et nous verrons que c'est les vertus du carême. Et enfin, nous terminerons en nous disant que la maîtrise de soi est la chose que le carême veut nous apprendre, veut nous communiquer, de telle sorte que celui qui est maître de lui-même connaisse de nouvelles tentations, autres que celles du début du carême, et avec les moyens, avec les tentations, eh bien, Saint Paul nous dit que le Seigneur nous pourvoit aussi les moyens d'en triompher. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Alors, mes très chers frères, tout d'abord, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas marcher dans la voie qui s'ouvre dès lors que, sous les pas du chrétien, dès lors qu'il a franchi la porte du baptême, nous ne pouvons pas comprendre comment commencer si nous ne comprenons pas que nous devons nous voir tel que Dieu nous voit. Alors vous allez dire, comment nous voit-il? N'allons pas chercher très loin, ceci est dans l'oraison. Ô Dieu qui nous voyait, dépourvu de toute force, gardez-nous au-dedans comme au-dehors, protégez nos corps contre tout malheur, purifiez nos âmes de toute pensée mauvaise. Ô Dieu qui nous voyait, Deus qui conspicis, c'est véritablement, littéralement, ô Dieu qui voyait quelque chose d'évident pour lui, il nous voit, quoi donc, dépourvu de toute force. Alors, vous allez dire, mais nous entendons cela souvent, et nous le lisons souvent dans les oraisons, nous le lisons souvent dans l'Écriture, et nous ne pouvons pas vous cacher qu'il y a quelque chose d'un peu vexant, dans le sens où, sous un autre rapport, l'Église nous demande de faire des efforts, et pas des petits efforts, tout le temps des efforts, et la même Église nous fait confesser constamment que nous n'avons pas de force. Alors, il y a quelque chose d'un peu vexant dans ce qu'elle nous dit, c'est comme si elle nous décourageait, tout en mettant un fardeau sur nos épaules. Alors, mes très chers frères, je vous dis tout de suite que c'est une erreur de penser comme cela. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous semble que c'est par notre raison que nous arrivons à cette sorte de réflexion, telle que je viens de la formuler. Il me semble que nous puissions dire que voilà, c'est du bon sens, on ne dit pas à quelqu'un « faites ceci » et en même temps, on ne rajoute pas « mais de toute façon, vous en êtes incapable ». Alors, à quoi joue l'Église ? Eh bien, ce n'est pas par notre raison mes très chers frères, que nous arrivons à formuler cette remarque. C'est en réalité par notre orgueil, par notre vanité, par notre fausse, par une fausse et illégitime confiance en nous-mêmes. Si nous raisonnions d'une façon rationnelle, comme des chrétiens, nous nous dirions, a priori, je vois une sorte d'opposition, de contradiction, mais c'est impossible, car Dieu ne peut ni nous tromper, ni se tromper. L'Église ne peut pas être à la fois une très bonne mère et une sorte de marâtre qui nous insulte et nous injurie. Alors, comment se fait-il que l'Église nous donne tellement de commandements à observer, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, et qu'en même temps, elle nous dit que nous n'avons aucune force? À strictement parler, elle ne nous le dit pas. Elle nous fait le confesser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, si l'Église nous donne des tâches, des devoirs à remplir, à accomplir, elle veut que pour les accomplir, pour les remplir, nous nous tournions vers Dieu et que nous nous voyions tels que lui nous voit, c'est-à-dire dépourvus de toute force. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce que l'Église nous met des fardeaux sur les épaules si elle sait que nous sommes dépourvus de toute force? Et pourquoi est-ce que Dieu nous dit d'observer ses commandements si il nous voit dépourvus de toute force? C'est très simple, mes très chers frères, soyons un tout petit peu rationnels. Si il nous demande de faire des choses, c'est que c'est pour notre bien. Notre bien se confond avec la gloire de Dieu. C'est à la fois pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Et en même temps, si il nous dit « Regardez-vous tel que moi je vous regarde, voyez-vous tel que moi je vous vois », c'est-à-dire dépourvu de toute force, c'est pour que nous puissions lui demander la force afin de remplir ses obligations qui seront pour notre bonheur et pour sa gloire. Vous voyez, un petit peu comme si on, comme un maître qui donne à un petit ouvrier débutant quelque chose à faire, en lui disant « Voilà, faites ceci ». Oui, mais c'est une très grande œuvre. Vous vous sentez faible. Oui, si vous pouviez me donner un coup de main, voilà la bonne attitude. Si vous pouviez m'apprendre, voilà. Il faut faire quelque chose, je suis là pour ça. Je suis rentré en apprentissage pour devenir un maître. Alors, il faut bien que je m'y mette. Mais je me sens dépourvu de force. Comment faire? Où me tourner? Je ne vais pas dire, oh, voilà, le maître me donne des choses à faire, et puis après, où me tourner? Je suis là pour devenir un maître. Je ne suis qu'un apprenti. Où me tourner? Vers le maître, tout simplement. Donc, sans moi, notre Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si ces paroles nous pincent ou nous piquent, nous révoltent, c'est, mes très chers frères, que nous avons en nous-mêmes, d'une façon quelque peu hypertrophiée, et ça c'est notre cas à tous, quelque chose qui s'oppose au fait que nous puissions recevoir la force d'obéir au commandement. Et cette chose, c'est tout simplement le vieil homme, l'orgueil, la vanité, la concupiscence, enfin toutes ces choses qui sont à peu près des synonymes, même si ça recouvre des réalités un petit peu différentes, mais c'est tout ce qui est mauvais en nous, et nous savons que l'Église nous apprend à confesser que tout le mal vient de nous, que tout le bien vient de Dieu. Vous voyez? Nous ne pouvons, nous aimerions pouvoir plaire à Dieu par nos propres forces, afin que Dieu puisse nous être quelque peu redevable. Puisque obéir au commandement de Dieu, ça produit notre bien, mais aussi la gloire de Dieu, nous aimerions pouvoir obéir au commandement de Dieu pour pouvoir avoir la satisfaction par nos propres forces, pour pouvoir avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose dont nous n'avons que nous-mêmes à remercier, pour laquelle nous n'avons que nous-mêmes à remercier, et cerise sur le gâteau, si Dieu pouvait nous être reconnaissant, ça sera encore mieux. Vous voyez, souvenez-vous cette parole misérable de ce misérable qui a passé toute sa vie à militer journalistiquement pour soi-disant la cause de l'Église, ou plutôt la cause des prêtres, la cause de la France, etc. Et puis qui, se voyant affligé de toutes sortes de choses à la fin de sa vie, a dit « Après tout ce que j'ai fait pour le bon Dieu, c'est comme ça qu'il me traite, mes très chers frères. Ce n'est pas comme ça que notre bon maître nous a appris à parler. Il nous a dit « Quand vous aurez fait tout ce qui vous aura été demandé de faire avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, dites encore, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Je n'ai rien fait. » Et c'est ça, les grands saints, quand au moment de leur mort, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je n'ai rien fait. Vous voyez, saint Thomas, par exemple, saint Thomas d'Aquin, vous savez, vous connaissez tous cette histoire, lorsqu'il a eu cette révélation de Dieu à la fin du Christ, à la fin de sa vie, il a dit, mais finalement, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit n'est rien, par rapport à ce dont j'ai eu un aperçu. voyez, et pourtant, ça n'a pas empêché Léon XIII de le proclamer docteur commun et de demander que tout le monde s'aligne sur lui. Avec Dieu, nous pouvons tout. Nous pouvons contribuer à la gloire de Dieu, ce qui n'est pas peu. Mais sans Dieu, nous n'avons qu'un orgueil très mesquin qui ne nous arrive, qui n'arrive même pas à procurer notre propre bien, le bien dont nous avons besoin pour être, j'allais dire, pour être normaux. Vous voyez, mes très chers frères? Donc l'Église nous fait commencer notre vie chrétienne, nous fait commencer cette introduction dans le carême, nous ne sommes qu'au deuxième dimanche de carême, en nous faisant nous voir nous-mêmes tels que Dieu nous voit. Ô Dieu qui nous voyait dépourvus de toute force. Et ensuite, gardez-nous au-dedans comme au-dehors, protégez nos corps contre tout malheur, purifiez nos âmes de toute pensée mauvaise. Un auteur qui commande ces paroles de l'oraison nous dit que l'Église nous fait parler à Dieu avec la parole, avec des paroles pleines d'humilité et de franchise. Nous ne sommes pas très francs lorsque nous essayons de contribuer à la gloire de Dieu par nos propres forces. Mais lorsque nous disons à notre bon Père Céleste, Seigneur qui nous voyait dépourvu de toute force, nous lui parlons franchement. Et Dieu aime que ses enfants lui parlent franchement. Non pas d'une façon arrogante, ça c'est pas parler franchement, c'est parler d'une façon insolente. Mais si nous lui disons, si l'on peut dire, franchement, mon bon Père Céleste, vous voyez que je n'ai aucune force. Eh bien, ça c'est de l'humilité. Vous voyez, c'est le fondement de l'humilité, savoir que rien de bien ne peut venir de notre propre fond. Nous confessons notre dépendance de Dieu, nous confessons la nécessité de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle nous ne pouvons strictement rien faire de bon pour plaire à Dieu. Immédiatement, dans la mesure où nous faisons nôtres ces paroles d'humilité que l'Église met dans notre bouche, et nous sommes obligés de les avoir, puisque c'est l'oraison d'aujourd'hui, vous venez de la prier avec le prêtre, mes très chers frères. Donc, puisque nous avons ces paroles, et qui sont des paroles de franchise, qui sont des paroles d'humilité, l'Église nous fait, eh bien, prendre conscience que ces paroles sont moins les paroles de la personne que nous sommes depuis le baptême, que les paroles de la personne que nous ne sommes plus depuis le baptême. Le baptême étant la porte des sacrements, il nous fait accéder à une réalité nouvelle. Le christianisme fait de l'homme une nouvelle créature, une nouvelle création surnaturelle par participation à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a aucune honte et aucune contradiction dans ce que nous allons dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte à dire « Seigneur, vous nous voyez dépourvus de toute force », et à dire, oui c'est vrai, par le baptême je suis une nouvelle créature, surnaturelle, qui a besoin de quelque chose de surnaturel, et qui a besoin beaucoup plus, que de cette sagesse humaine par laquelle les gens sans Dieu, eh bien, arrivent à être des gens honnêtes, des gens droits, des gens bons, si j'ose dire, des gens qui sont corrects, mais tout ceci, ils le tirent de leur propre fond, tout ceci sont des biens très relatifs, parce qu'ils ressemblent à l'œuvre que la grâce fait dans le cœur du chrétien. La seule chose, malheureusement, comme dit notre père saint Augustin, tout ceci, finalement, il a pour base, a pour force, finalement, l'orgueil, c'est-à-dire que je ne veux pas être mis en prison, je ne veux pas être pris pour une crapule, je ne veux pas être pris pour un grossier personnage, etc. Donc, je vais faire un effort pour qu'on me considère bien. C'est très bien quand on n'a pas Dieu, mais quand on a le Christ, c'est tout à fait différent. Nous sommes des nouvelles créatures, une nouvelle création en notre Seigneur Jésus, et donc nous avons besoin, comme une plante neuve et saine, a besoin de la sève, nous avons besoin de la grâce du Rédempteur. Cette grâce du Rédempteur est à la fois gratuite pour nous, et pas du tout gratuite pour le Christ, parce que, souvenez-vous, nous nous approchons tout doucement du temps de la Passion et de la mort de notre Seigneur. Elle est gratuite pour nous, mais elle n'est pas gratuite pour lui. Il nous l'a acquise au prix de son sang. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous avons tout pleinement dans le Christ, comme dit l'Écriture, mais le Christ a acquis ses mérites pour nous, cette grâce pour nous. Il est devenu grâce pour nous, sanctification, rédemption, de telle sorte que nous fassions bon usage de cette grâce qui nous est donnée. C'est pour ça que, dimanche dernier, saint Paul nous disait « Prenez garde à ce que nul ne reçoive la grâce en vain ». Nous demandons à Dieu, gardez-nous, custodi, interius, exterius, exterius qui custodi, gardez-nous intérieurement et extérieurement. L'homme a deux faces, si j'ose dire, la face intérieure, la face extérieure. À part ça, on a fait le tour, si j'ose dire. Dieu doit nous garder à l'intérieur contre nos propres passions, contre notre propre concupiscence, et à l'extérieur contre les tentations. Et là, il y a quelque chose de très important, j'attire votre attention dessus, mes très chers frères. Cette garde que Dieu nous accorde par l'intermédiaire de l'Église, qui nous l'a fait demander, cette garde est déjà contenue dans le paternoster. Nous disons, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, sicut et nos, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est gardez-nous à l'extérieur, contre les tentations, libéranos à malo. Je me suis mal pris, excusez-moi. Libéranos à malo. Délivrez-nous des tentations. Délivrez-nous de l'attrait du monde. Fermez notre cœur, fermez nos yeux pour que nous ne voyons pas les vanités. Mais si nous voulons qu'il nous garde intérieurement, nous devons lui dire pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, de même que nous savons que vous allez nous garder à l'extérieur par la morale chrétienne, par le fait que le chrétien ne laisse pas traîner ses yeux partout, que le chrétien ne laisse pas traîner ses oreilles partout, que le chrétien fait attention de ne pas se trouver dans des lieux dangereux, autant qu'il le peut, et le monde est dangereux, mais il y a des lieux quand même plus dangereux que d'autres. Ça, c'est la garde extérieure, mais la garde intérieure ne peut se faire que dans la mesure où nous maîtrisons, nous disent les auteurs, nous maîtrisons nos passions. Pardonnez-nous nos péchés, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous pardonnons, Dieu nous pardonne. Et s'il nous pardonne, il nous garde à l'intérieur. Custodinos. Donc, voyez, mes très chers frères, Dieu nous garde à l'intérieur, moyennant que nous domptions nos passions, et si nous arrivons à le faire, c'est parce qu'il agit en nous, par sa grâce, et il nous garde à l'extérieur, en ne nous soumettant pas à la tentation, en ne nous laissant pas succomber à la tentation, parce que il nous donne la morale chrétienne, la morale, les règles, les préceptes extérieurs de morale, de telle sorte que le monde, qui est toujours une tentation, soit quand même quelque peu filtré. Vous voyez, le monde, le chrétien vit dans le monde, donc il vit constamment dans les tentations, dans l'église la plus sainte, dans le lieu le plus simple, il y a toujours un moyen d'être distrait, il y a toujours un moyen d'avoir des mauvaises pensées. Mais, justement, tout ce qui est grossier est laissé à l'extérieur. Le pouvoir du monde, mes très chers frères, le pouvoir du monde diminue à mesure que nous devenons maîtres de nous-mêmes. Il nous gardera des tentations à l'extérieur dans la mesure où nous maîtriserons la concupiscence. Pourquoi ? Parce que la concupiscence est la racine du monde. Regardez les très grands saints, je pense à saint Antoine par exemple dans le désert, eh bien le monde était obligé de venir l'agresser, comme on dit aujourd'hui, il était obligé de venir lui faire violence par l'extérieur, par toutes sortes de manifestations démoniaques. Pourquoi ? Parce que étant totalement maître de ses passions à l'intérieur, il n'y avait plus rien qui fasse écho au monde à l'intérieur. Vous voyez, si nous sommes complètement livrés à nos passions, on pourrait dire que le monde est moins tentateur. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il y a une sorte d'égalité entre l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes complètement livrés à nos passions à l'intérieur, autant qu'un chrétien peut se laisser faire, bien sûr, laisser aller, et à l'extérieur, finalement, le monde nous est assez familier. Domptez vos passions, le monde va devenir, sous un certain rapport, beaucoup plus agressif. Vous voyez, nous allons remarquer, je me laisse aller à toutes sortes de mauvaises pensées. Je sors dans la rue, je vois des choses indécentes. Bon, ce sont des choses indécentes, oui, bon, là, c'est peut-être un peu abusif. Bon, je fais attention à ne pas avoir de mauvaises pensées. S'il y a une chose indécente qui arrive dans le monde, je vais avoir conscience que c'est vraiment mal. Vous voyez, plus je maîtrise mes passions, plus le monde apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire hideux, et d'une certaine manière peu désirable. Pourquoi ? Parce que le monde n'aurait aucune force à l'intérieur si, à l'intérieur, la concupiscence était domptée. Et c'est cela, mes très chers frères, que le carême nous fait, les choses extérieures que l'Église nous enseigne, nous fait de concours. Il nous fait tendre à la maîtrise de nous-mêmes. Vous voyez, par le jeûne, par l'abstinence, par les aumônes que nous faisons, par les prières aussi, les bonnes lectures, les lectures de carême, les bonnes choses que nous avons plus le temps de faire, spécialement en carême, sachant que tout le monde fait pareil, donc c'est encourageant. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls à combattre. Si nous n'utilisons pas ces armes, nous ne laissons pas Dieu nous garder à l'extérieur comme à l'intérieur. Certes, nous pourrons continuer à dire « Seigneur, qui nous voyez dépourvus de toute force », mais alors là, ce ne sera plus de l'humilité, ça sera de la témérité. Dieu ne nous dira pas « Mon cher enfant, je te vois dépourvu de toute force et je vais t'en donner », notamment par les moyens dont l'Église nous pourvoit en carême. Il va nous dire « Oui, tu n'as pas de force, mais c'est aussi un peu à ta faute parce que tu n'utilises pas les choses que je te donne. » Si une ville assiégée par des ennemis envoie au roi un message en disant « Seigneur, nous n'avons pas d'armes », ça signifie « Venez à notre secours ». Mais si le roi leur envoie une cargaison d'armes, qu'ils perdent la guerre ou qu'ils se laissent envahir, quoi qu'ils aient eu de très bonnes armes, et que ces gens-là disent « Ben, nous étions sans armes », on va dire « Oui, mais je vous en ai donné ». Donc vous étiez sans armes, mais ça c'était avant mon secours. Ils ont dit la même chose qu'au début, la seule chose, ça n'a plus la même valeur. Au début, c'était un appel au secours, « Seigneur, qui nous voyait dépourvu de toute force, au secours !» Et après, c'est « Seigneur, vous voyez, dépourvu de toute force, donc du coup, vous savez, soyez indulgents, parce que moi, je peux pas trop en faire. » Ah, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mes très chers frères. Voilà pourquoi saint Paul, dans l'Épître, qui est une très belle épître aujourd'hui, comme tous les dimanches, bien sûr, mais enfin, c'est une très belle épître, il nous dit « Mes frères, nous vous demandons et nous vous conjurons dans le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, vous marchez ainsi de manière à abonder de plus en plus. Ut abundetis magis. » Sous les yeux, j'ai la traduction, afin que vous progressiez de plus en plus, mais dans le contexte moderne, c'est un mot qui est un peu à éviter. Que vous abondiez de plus en plus, il fait référence à un arbre fruitier qui abonde en fruits. C'est un arbre qui abonde en fruits, c'est une parole que notre Seigneur utilise aussi dans l'Évangile. Donc nous devons marcher de façon à abonder de plus en plus. Et pour cela, mes très chers frères, nous devons faire un bon usage des païens qui nous entourent. Les païens, évidemment, sont des malheureux qui n'ont pas le baptême, ou alors ce sont des malheureux qui sont sous l'empire du démon, puisqu'ils n'ont pas le baptême, ou alors ce sont des malheureux encore plus malheureux qui ont le baptême et qui agissent comme s'ils ne l'avaient pas. Donc, le païen, nous ne devons pas tellement le mépriser que le prendre comme une sorte de critère. Ça peut vous étonner, mais je vais vous expliquer. Le païen est pour nous une sorte de repère. Il suit sa volonté propre et il est rebelle à Dieu. C'est pour cela que saint Paul dit « comme les païens, etc. » qui ne connaissent pas Dieu. De quoi est capable un païen? Il est capable d'un certain nombre de choses mauvaises, nous le savons, tout le monde le sait, mais il est aussi capable d'un certain nombre de choses bonnes. Eh bien, si le païen peut le faire, le chrétien, avec l'aide de la grâce de Dieu, doit nécessairement faire mieux. Sinon, à quoi sert-il d'être baptisé? À quoi sert-il d'être mort et ressuscité dans le Christ? À quoi sert-il d'être passé par la porte des sacrements qui nous donnent l'accès aux autres sacrements? À quoi sert-il d'être baptisé si, baptisé ou pas, nous sommes livrés à nos propres forces pour faire le bien? Il faut quand même que le baptême ait un avantage, si j'ose dire. C'est le minimum qu'on puisse dire, bien entendu. Donc, le chrétien doit en quelque sorte moins mépriser le païen, un peu comme un pharisien, c'est-à-dire il doit le mépriser dans le sens où il doit mépriser en lui ce qu'il était autrefois lui-même, mais spirituellement. Il doit surtout le prendre comme une sorte de référence et de dire « tout ce qu'un païen est capable de faire, moi, avec l'aide de la grâce de Dieu, je dois faire mieux ». Alors, ce n'est pas forcément qu'un païen monte une boîte très florissante, moi je dois faire mieux, ce n'est pas du tout ça, c'est moralement parlant, bien entendu. Vous voyez, nous devons marcher de façon à abonder de plus en plus. L'homme livré à ses propres forces n'est pas totalement incapable de faire le bien, loin de là. Mais c'est un bien qui ne sert à rien. Vous voyez, pourquoi? Parce que la charité n'en est pas le principe. Alors, le chrétien doit être capable au moins de faire aussi bien que le païen, et évidemment, beaucoup plus, même si nous ne sommes pas dans une sorte de compétition stérile, bien entendu. Le chrétien doit se plier à la loi de Dieu, que lui enseigne l'Église, et doit porter toute son action à plaire à Dieu pour contribuer à la gloire de son Père céleste. C'est pour ça que notre Seigneur dit dans l'Évangile que votre lumière brille devant les hommes afin qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Vous voyez, une mauvaise application malheureusement de cela peut être que des fois, ça peut nous arriver à nous aussi, ça peut nous arriver, je ne sais pas quelles sont nos histoires particulières, mais nous venons, après avoir été païens, nous venons à la lumière de la foi, et nous comprenons ce que l'Église nous enseigne, nous sommes baptisés, etc. Et puis nous nous rendons compte que nous avons pu fréquenter des chrétiens, comme nous, comme le chrétien que nous sommes aujourd'hui, mais des chrétiens qui ne vivaient pas au niveau de leur baptême, des exigences de leur baptême. Et nous pouvons nous dire, eh bien, ma foi, c'est bien triste qu'il ne m'ait pas donné un bon exemple. Imaginez maintenant que les chrétiens aient donné un bon exemple, et que la grâce nous ait touchés, et que nous soyons devenus chrétiens. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, Seigneur mon Dieu, soyez glorifiés pour ces bons exemples qui n'ont pas été sans me pousser sur la voie de la conversion. Vous voyez, quelle tristesse pour un chrétien de vivre moins bien qu'un païen, de vivre d'une façon qui est indigne de l'immense privilège qu'il a reçu par le baptême. Nous devons travailler à la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire nous travailler à nous donner en spectacle ou même à nous donner en exemple volontairement. Nous devons travailler à vaincre le vieil homme. Et le vieil homme est tellement nocif que quand on l'a vaincu, ce n'est pas rien que d'arrêter le flux de la nocivité du vieil homme. Bien plus, ce n'est pas rien non plus que de mettre à la place du flux de la nocivité du vieil homme qui sortait de nous comme des rayons du soleil, d'un mauvais soleil, de maintenant d'être comme un rayon de soleil de vertu et de justice qui rayonne la gloire de Dieu, qui rayonne les vertus, qui rayonne la grâce sanctifiante. Saint Paul nous dit, car la volonté de Dieu est que vous soyez saints, que vous vous absteniez de l'impureté. Saint, je vous le rappelle, mes très chers frères, signifie séparé du monde. Or, nous l'avons dit, la racine du monde est dans la concupiscence. Donc, pour être saint, il y a divers degrés, disons, il y a de diverses façons de se sanctifier. Il y a, si votre vocation est d'être religieux, il faut que vous sortiez du monde. Si votre vocation est d'être un chrétien laïque avec une famille, etc., il faut que vous restiez dans le monde en vous préservant de ce que le monde a de plus mauvais, bien entendu, mais que vous restiez là et que vous vous sanctifiez. D'une certaine manière, l'un et l'autre sont tout aussi difficiles. Il est difficile de sortir du monde parce que le monde nous court après. Il est difficile de rester dans le monde parce que le monde nous entoure. Donc d'une manière ou d'une autre, nous faisons toujours face au monde, même si ce sont sous des modes différents. Nous devons comprendre que, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit notre vocation, nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est-à-dire, pas tellement le fait d'avoir de maintenir avec un petit bâton une auréole sur sa tête et puis de faire semblant d'écraser les autres par notre bon exemple. Le saint, c'est celui qui est séparé du monde. Qui est séparé du monde extérieurement, cela va de soi, parce que nous sommes quand même chrétiens, nous faisons profession de christianisme, mais aussi intérieurement, et cela va moins de soi, puisque c'est très difficile, puisque le monde a sa racine en nous, qui est la concupiscence. Sans la concupiscence, le monde mondain ne serait pas advenu et n'aurait pas recouvert la création de Dieu sans la concupiscence d'Adam. Le saint, c'est donc celui avant tout qui est séparé du monde. C'est celui qui maîtrise la racine du monde en lui, qu'est la concupiscence. Saint Paul dit « car la volonté de Dieu est que vous soyez saints, que vous vous absteniez de l'impureté ». L'impureté, les auteurs qui commentent ce texte nous disent, d'une certaine manière, Saint Paul utilise un péché grossier. Nous espérons que les chrétiens s'abstiennent de cela. Alors évidemment, il y a des chrétiens qui peuvent tomber dedans, mais enfin bon, la plupart du temps, les chrétiens ont dépassé le stade, disons, de l'évitement des péchés extrêmement grossiers. Néanmoins, c'est un péché grossier, nous disent les auteurs, qui nous est donné comme, en quelque sorte, comme une image de tout ce qui domine l'esprit, tout ce qui met une entrave au règne de l'Esprit de Dieu en nous. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, dit saint Paul dans une épître. Donc, l'impureté ici, c'est bien sûr les choses grossières dont on ne parle pas, mais c'est aussi tout ce qui n'est pas pur dans notre cœur, c'est-à-dire toutes les fois où, d'une façon très subtile, nous nous préférons nous-mêmes à Dieu. Nous préférons notre propre confort à la mortification, nous préférons notre propre temps au temps de Dieu, nous préférons notre propre volonté à la volonté de Dieu, nous préférons une œuvre pieuse à un devoir connu, Et ça, oui, c'est déjà beaucoup plus subtil. Nous préférons prier plutôt que de faire quelque chose qui appartient à notre devoir et que Dieu nous demande de faire. C'est une chose bonne que de prier, mais c'est une chose meilleure que de faire son devoir en priant. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. L'impureté reste l'impureté. Il y a des impuretés extrêmement grossières, il y a des impuretés extrêmement subtiles. Eh bien, c'est toujours de l'impureté. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions de toutes sortes d'impuretés, grossières bien sûr, mais subtiles aussi. Que chacun de vous, dit Saint Paul, sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et non en suivant les convoitises de la passion, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Encore une fois, il utilise quelque chose de grossier pour désigner la maîtrise de l'intérieur, la maîtrise de la concupiscence, de cette racine subtile qui est en nous et qui est déjà très épurée chez le chrétien qui a fait un tout petit peu d'effort depuis son baptême. Donc il y a quelque chose de plus subtil. Néanmoins, ça reste une sorte d'impureté que de se suivre soi-même. Que la partie, il faut donc, mes très chers frères, nous dit un auteur, que la partie supérieure gouverne la partie inférieure, que l'esprit commande à la chair. Vous vous souvenez, au tout début de ce sermon, nous disions que nous ne pensions pas d'une façon rationnelle si nous pensions que l'Église se contredit ou que l'Église se comporte mal vis-à-vis de nous. Nous pensions plutôt avec notre orgueil. Eh bien, c'est la même chose. Nous devons nous composer d'une façon rationnelle, c'est ce que nous dira l'Église au dimanche après Pâques. Il faut que nous soyons, que nous nous comportions conformément à la raison, c'est-à-dire à la loi de Dieu, et que nous ne nous laissions pas entraîner par les petites idées qui nous sont inspirées par notre chair, notre concupiscence, notre orgueil, notre vanité, notre vieil homme plus ou moins purifié, ou même une certaine piété mal affermie, dans le sens où une piété qui est l'objet d'une sorte d'appropriation par l'amour-propre, plutôt que qui est le mouvement de notre amour ascendant vers Dieu. Vous voyez, il nous faut toujours nous défier de nous-mêmes, surtout quand nous avons fait des progrès. Quand nous sommes encore très grossiers, évidemment, nous nous défions de nous-mêmes, mais d'une certaine manière, n'importe quel païen pourrait se défier de lui-même de la même manière. Il va se dire, bah, finalement, je me comporte d'une façon tellement débile que ça va me retomber dessus. Et oui, mais quand on est chrétien et qu'on a fait beaucoup de progrès, eh bien, mes très chers frères, il nous faut continuer et encore plus à nous défier de nous-mêmes, de peur que nous ne tombions dans une situation qui était pire qu'avant. Parce que le chrétien qui a fait des efforts et qui se vante de ses efforts est dans une situation qui est beaucoup bien pire que celle du pré-chrétien, si j'ose dire, du pécheur qui est en voie de conversion et qui déplore son péché et qui déplore les liens de l'iniquité dans lesquels il est enchaîné. Il nous faut faire très attention. Donc vous voyez, il faut que la partie supérieure gouverne la partie inférieure, que l'esprit commande à la chair. Eh bien, mes très chers frères, le carême nous apprend la vertu du jeûne, la vertu de l'aumône, la vertu de la prière, comme nous avons dit, il dompte les passions. Vous allez dire, c'est pas en m'abstenant de manger, de toute façon, il y a plein de gens qui le font pour des raisons diététiques, pour des raisons de santé, pour des raisons. C'est pas ça. Évidemment, ces gens qui jeûnent d'une façon thérapeutique, ça leur fait du bien à leur corps, certainement. Ils croient que ça leur fait du bien à l'âme. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est à la partie, sinon très grossière, de l'âme. Le chrétien qui jeûne en esprit de pénitence, par obéissance à l'Église, dans un esprit de prière, en faisant fructifier l'obéissance extérieure à laquelle il se livre, reçoit des grâces que les jeûneurs thérapeutiques, dont les jeûneurs thérapeutiques n'ont absolument pas la moindre idée, et qu'ils ne recevront jamais non plus. Parce qu'il y a une différence entre un enfant du diable qui se comporte d'une façon intelligente, et il y a une autre différence entre un enfant de Dieu qui se comporte d'une façon filiale. Vous voyez? Le jeûne, la prière, la mortification, l'aumône pendant le carême, dompte les passions dans la mesure où nous le pratiquons, pratiquons ces choses d'une façon qui est conforme à l'Église et qui est aussi sur le long terme, de telle sorte que nous ressortons, il est prévu par l'Église, il est prévu par Dieu, que nous ressortions chaque année du carême un petit peu plus fort. Alors évidemment, nous pouvons retomber, etc. Évidemment, bien entendu, ce n'est pas que nous avons atteint un niveau duquel nous ne pouvons pas retomber. Néanmoins, quand on a fait l'expérience de cette force qui est donnée spécialement dans le carême, nous n'avons plus tellement envie de retomber. Nous retomberons peut-être, et si cela devait arriver, nous ne devrions pas du tout nous décourager, mais quand on a fait l'expérience de quelque chose de meilleur, on n'a plus tellement envie de rester dans ce qui est bien, et on n'a vraiment pas envie de retomber dans ce qui est mal. Vous voyez ? Tout ceci est en quelque sorte condensé dans le trait, la deuxième partie du trait, après le graduel. Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux ceux qui observent les commandements du Seigneur de tout leur cœur pour l'amour de Dieu, sachant qu'ils ont tout intérêt à les observer, puisqu'ils recevront une force de Dieu surnaturelle, quoi qu'ils soient totalement dépourvus de force, et ils recevront des choses que l'oreille n'a pas vues, n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues, et des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, comme dit saint Paul. Ce sont ces choses que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment, qu'il aime et qu'il aime aussi, évidemment. Il y a donc dans le carême un certain nombre d'armes qui nous sont données par Dieu, qui nous sont pourvues par l'Église, afin que nous qui nous savons désormais sans force, nous devenions forts. Parce que Dieu veut que nous confessions que nous sommes sans force, mais il ne veut pas que nous restions sans force. Il veut nous donner des forces, puisqu'il nous donne la grâce sanctifiante, qui est la grâce du réparateur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nous continuions à être conscients que sans cette grâce, nous sommes faibles, mais il veut que nous soyons forts. Pourquoi ? Parce que sa gloire en dépend. Ce n'est pas simplement notre bien, mais aussi sa gloire. C'est vrai que notre intérêt, notre bien, se confond avec la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si nous travaillons pour la gloire de Dieu, nous allons en recevoir du bien. Néanmoins, nous pourrions, encore une fois, oublier que nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes, nous ne sommes même pas faits pour accomplir, pour réaliser le but de la nature humaine, considéré dans la nature humaine, mais nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour aimer notre Père céleste, la Très Sainte Trinité, et nous sommes faits pour vivre avec la Très Sainte Trinité pour l'éternité. Et le carême nous donne les moyens de ne pas nous complaire dans la privation de force qui est notre état natif. Notre vie, d'ailleurs, nous disent les auteurs, et c'est tout, ça peut être intimidant, mais commençons par le commencement, notre vie doit être un carême continuel, un carême de vigilance, de retenue, de maîtrise de soi. Vous allez dire, mais le carême, déjà, c'est pas évident, alors c'est toute la vie. Commençons par le commencement, commençons par faire des efforts quand tout le monde en fait. Vous voyez, c'est plus facile de courir avec tous ses amis que de courir tout seul. Eh bien, tous nos amis sont tous nos frères, et nous courons tous ensemble pendant le carême. Donc faisons des efforts réels pendant le carême, mes très chers frères, de telle sorte que par la suite, nous puissions continuer sur cette bonne lancée, toujours avec la même grâce, toujours dans le même but, la gloire de notre Père Céleste, et une grande fructification. Se laisser aller, c'est retomber dans l'esclavage de la nature. Eh bien, mes très chers frères, ayons honte d'être comme des païens. Païens, nous disent les auteurs, malheureusement notre expérience aussi, païens qui sont parfois meilleurs que nous. Alors Saint-Pierre sur la montagne disait « Seigneur, il est bon d'être ici. Ne restons sur ces paroles de Saint-Pierre, ne parlons pas des tentes, etc., qui étaient des paroles imparfaites, venant d'un bon fond, mais imparfaite pour le moment, puisqu'il a dit quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Il est bon d'être ici. Les auteurs spirituels qui ont commenté ce passage nous disent que si Saint-Pierre, si les apôtres ont été hors d'eux-mêmes, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire transportés dans une si grande joie, une si grande félicité, par un aperçu microscopique, si l'on peut dire, quoique bien sensible, de la gloire, de la félicité éternelle, de la béatitude éternelle, par la transfiguration de notre Seigneur, à combien plus forte raison serons-nous dans une joie qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer lorsque nous aurons atteint le but que tous nos efforts tendent ici-bas. S'abstenir de l'impureté dégage l'esprit des ténèbres. Mais goûter à Dieu par le jeûne et par la prière, donne une petite idée de la béatitude, donc. Néanmoins, mes très chers frères, nous devons prendre garde à ne pas nous approprier la douceur de la piété. Si nous faisons, je le dis, pour ceux qui mettront en pratique ces paroles et qui feront de vrais efforts pendant le carême, il y a une certaine douceur de la piété. Jeûner a quelque chose de mortifiant, et puis quand on rentre dedans pour l'amour de Dieu et que, au lieu de se tourner les pouces en regardant les placards qui sont pleins de bonnes choses, on prie, vous voyez, il y a quelque chose de doux qui nous est donné. Il y a une sorte de manne spirituelle qui nous est donnée, qui nous fait un petit peu oublier le fait que nous avons faim et que notre estomac crie famine, et qui réellement commence à occasionner des choses dans notre âme, dans notre cœur, qui sont, c'est cette élévation qui fait que nous montons petit à petit vers Dieu, par étapes, mais réellement. Voyez. Néanmoins, lorsque cela nous arrivera, prenons garde à ne pas nous approprier la douceur de cette piété. Ne refusons pas les souffrances qui nous sont données, et nous savons que nous ne nous sommes pas approprié la douceur de la piété, dans la mesure où nous ne nous révoltons pas contre les souffrances, c'est-à-dire les inconvénients, les travers, les choses qui nous, les embarras, que sais-je, tout ce que le diable, ou tout ce que les hommes, ou même tout ce que notre prochain, même nos frères, peuvent occasionner de pénibles pour nous. Ne nous révoltons pas contre ces choses-là, parce que si nous nous révoltons contre elles, nous ne comprenons pas que nous ne pouvons pas avoir part à la gloire de Dieu, au triomphe, si nous n'avons pas souffert avec lui, avec le Christ. Donc, la voix du Père nous encourage, nous donne, enfin nous, plus que nous encourage, elle nous donne l'ordre d'écouter son Fils parce qu'il a mis en lui toutes ses complaisances. Écouter son Fils, c'est écouter l'Église qui nous enseigne les règles que nous devons suivre pendant le carême, la loi du carême. C'est aussi écouter les maximes du Christ qui nous enseigne toute l'année et tout au long de notre vie par l'Église, dans l'Évangile. C'est imiter aussi le Christ dans sa souffrance, pour pouvoir avoir part à sa résurrection glorieuse. Vous voyez ? Jouissons de tout ce que Dieu nous donne d'apprécier dans le carême, en grande récompense de nos petits efforts. Mais ne nous attachons à rien, de telle sorte que nous puissions aller plus loin dans la conformité avec notre Seigneur. Continuons à dire, Seigneur, vous nous voyez dépourvus de toute force, afin de pouvoir jouir d'une véritable force. Ne nous approprions pas les biens et les fruits que porte en nous cette force, qui produit les vertus, qui produit l'enracinement dans la charité, qui produit les bonnes œuvres, qui produit même jusqu'à un certain point la glorification du nom de Dieu autour de nous. Ne nous attachons à rien, gardons les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié ou devant l'être, dans ce temps de carême, de telle sorte que nous puissions, en l'imitant totalement, recueillir totalement, autant que cela est possible pour nous, le fruit de nos efforts, c'est-à-dire la gloire après la grâce. Les apôtres nous disent, lorsqu'ils se sont relevés, que nous dit l'Évangile, il dit, alors levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul qui leur avait dit, levez-vous, ne craignez point. Ce sont des paroles, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à l'âme obéissante. Levez-vous, ne craignez point. Si nous ne sommes pas prosternés devant Dieu dans la confession de notre faiblesse native, nous ne pouvons pas entendre notre Seigneur nous dire « Levez-vous, ne craignez point ». Parce que l'orgueil précède la chute et celui qui est debout doit prendre garde qu'il ne tombe. « Levez-vous, ne craignez point ». Seigneur, merci pour ces paroles qui sont une réponse au fait que je me vois tel que Dieu me voit, c'est-à-dire dépourvu de toute force. Fortifions-nous, mes très chers frères, et visons à faire tous les efforts possibles, de telle sorte que se réalise pour nous la volonté de Dieu qui est d'être saint. Or, un auteur nous dit, je termine par ces considérations, le vrai chrétien, un vrai chrétien est un saint, c'est-à-dire il est séparé du monde, pour Dieu, est un saint, et ceux que nous honorons comme saints sur nos autels, donc, ne le sont que parce qu'ils ont été de vrais chrétiens. Alors, je ne vous dis pas viser à pouvoir être canonisé un jour ou l'autre quand le pape reviendra. Ça serait complètement stupide. Je vous dis Seigneur, simplement, mes très chers frères, le Seigneur nous dit, puisque la volonté de Dieu est que nous soyons saints, abstenons-nous de toute impureté, grosse et petite, grande et subtile, Fortifions-nous, mes très chers frères, de la force de ce Dieu qui nous aime et de ce Dieu qui nous donne toujours ce qu'il nous ordonne. Oui, Seigneur, ô Dieu qui nous voyait dépourvus de toute force, gardez-nous au-dedans comme au-dehors, souvenez-vous du pater, protégez nos corps contre tout malheur, nous pouvons le demander à Dieu, purifiez nos âmes de toute pensée mauvaise, par Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.